À voix nue. Cette semaine, Belindola rencontre Denis Podalydès. Ce soir, les voix de l'enfance.
Bonjour,
bonjour,
Denis Podalydès.
Bonjour.
Bonjour, premier épisode de ce long entretien, cette à voix nue qui vous est consacrée. Comme l'exercice l'exige, et en guise d'introduction, je vais tenter de dresser un court portrait de vous. Vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes scénariste, écrivain, sociétaire de la Comédie Française depuis 2000. Vous avez dans la vie deux obsessions, les mots et le goût de l'histrionisme, je reprends vos termes. Depuis votre enfance, dites-vous, vous aimez paraître devant les autres, en chair et en os, et dire des textes. De ces deux passions est né votre désir de théâtre, mais aussi de cinéma. Avec l'un de vos trois frères, le réalisateur et acteur Bruno Podalydès, vous racontez dans une trilogie cinématographique votre roman familial et cette société versaillaise dans laquelle vous naissez au début des années 60. Alors vous aimez en vrac la tauromachie, le foot, le cyclisme, mais plus que tout, vous aimez les livres qui vous accompagnent, qui vous guident et qui vous envahissent. Mener cet entretien avec vous, Denis Podalydès, c'est forcément faire des choix, car il semble que vous ne renonciez à rien. Votre vie et votre agenda sont remplis de mots, de projets, de rencontres. Dans cet entretien au long cours, nous allons tenter de comprendre ce qui vous meut, Denis Podalydès, ce qui vous fait vivre et ce qui vous fait respirer. C'est un peu ambitieux, n'est-ce pas ? Alors, pour ce premier épisode, nous allons du côté de l'enfance. Vous êtes né à Versailles, dans un monde que l'on peut qualifier de privilégié. Vous avez trois frères, Bruno, Eric et Laurent, un père pharmacien, une mère professeure d'anglais qui fume, en corrigeant ses copies,
oui.
Une grand-mère maternelle libraire, des oncles et des tantes, et tout ce petit monde est logé dans l'immeuble familial.
Oui.
À quoi ressemble la vie dans ce votre drôle de kibboutz versaillais, Denis Podalydès ?
C'est une vie très privilégiée, très heureuse, très inconsciente du monde, et très familiale, puisque tout est organisé. Il y a une matriarche, qui est ma grand-mère, qui est une sorte d'âme de la maison. Il y avait que trois, si mon souvenir est exact, trois vrais étages, un rez-de-chaussée, là il y a toujours eu un locataire. Et donc la famille s'est distribuée aux différents étages, ce qui faisait une vraie communauté que j'ai pas vraiment retrouvé après de famille où je pouvais aller voir ma grand-mère ou mon oncle ou ma tante comme je voulais. On se retrouvait tous au jardin. Ma mère et mon oncle et ma tante habitent toujours dans cet immeuble à Versailles. Un très beau jardin, très bien entretenu par ma grand-mère qui avait un jardinier. On n'avait pas le droit d'y faire du football. Dans ce jardin, il était un peu défendu. Parce que ma grand-mère avait l'œil dessus de son troisième étage. Donc oui, c'est une enfance circonscrite entre les deux jardins, parce qu'il y a aussi le jardin du château de Versailles, le Trianon, qui est à 50 mètres. Quand on sortait de l'immeuble, à gauche, droite, et on descend vers le Trianon. Donc c'est une enfance très régulière et même régulière dans la régularité classique avec ces longs plates-bandes. Le jardin de ma grand-mère était aussi très bien fleuri avec un gazon ras. Donc c'est une enfance très verdoyante et très réglée avec des allées.
Dimanches en famille.
Des dimanches en famille, des dimanches au jardin, des dimanches aussi dans le parc, des promenades dans le parc et quand même, dans cet univers très privilégié, des sources de conflits. Notamment, l'opposition politique entre ma mère et mon père.
Votre mère de gauche.
Ma mère qui était de gauche, socialiste, qui était PSU, je me rappelle de le nom de Rocard à la bouche. Et mon père était fils de colon. Il était arrivé d'Algérie très jeune, pour se marier en fait. Il a connu ma mère à 19 ans. Ma mère est tombée enceinte. Un an après, ils se sont mariés, alors qu'ils se connaissaient finalement très peu. Et mon père n'était pas du tout du milieu dont ma grand-mère rêvait pour sa fille. Ma grand-mère était veuve depuis peu de temps. Elle avait perdu son mari en 59 d'une maladie du cœur. Et elle était donc libraire, très bien installée, mais il y avait un fiancé pour ma mère qui était quasiment... prévu.
Très bien installé, ça veut dire que c'était une affaire qui fonctionnait.
Très bien, c'était une librairie. D'ailleurs, c'était une sorte de fierté de mon enfance. On disait que c'était la librairie la plus connue à l'ouest de Paris. parce que c'était une librairie classique, donc qui faisait tous les livres scolaires, où se fournissaient les écoles, les lycées. Et donc, à chaque rentrée des classes, il y avait une queue interminable devant le 69 avenue de Saint-Cloud, parce que c'était la librairie où tout le monde allait se fournir en livres scolaires.
Tous vos camarades d'école ?
Oui, tous. Et donc, la librairie Rua étant le nom de ma grand-mère, était un phare, comme ça, dans ma construction intellectuelle. C'était vraiment un lieu que j'adorais, où j'adorais aller me fournir en papeterie, et en livres.
Vous travaillez, non, parfois, dans cette librairie avec votre frère?
Oui, aux rentrées des classes, le personnel est triplé pour faire face à toute la clientèle. Et donc, à partir de l'adolescence, toutes les rentrées des classes, et même quand j'étais étudiant, j'y étais jusqu'en fin septembre, avec d'autres étudiants, c'était extrêmement sympathique et chaleureux. Et j'adorais ça. Et là, ma grand-mère était aussi, d'ailleurs, était intimidante pour tout le monde. C'était une femme assez à qui beaucoup de gens reprochaient son autorité excessive, un caractère assez implacable.
Et vous lui reprochiez cette autorité ?
Je sentais très vivement cette autorité, notamment quand on faisait dans le jardin, quand on cassait des fleurs. Et en même temps, je l'admirais. J'avais vraiment le sentiment qu'elle était le dieu tutélaire de ce monde et que c'est elle qui lui donnait sa raison. Nous étions un peu comme hébergés chez elle. Mes parents, s'étant connus très jeunes, ils étaient étudiants tous les deux dans notre enfance, à Bruno et à moi. Donc mon père était encore étudiant en pharmacie. Ma mère était jeune professeure. Et je les considérais un peu comme les enfants de ma grand-mère, autant que mes parents. J'ai eu cette conscience-là. Nous étions très très jeunes sous la mère supérieure. D'ailleurs, mon père n'a cessé de l'appeler la mère supérieure. Mon père assez vite entré en conflit avec elle, parce que on lui faisait comprendre qu'il n'était pas de ce monde-là, qu'il était fils de petit colon, on lui reprochait de pas être assez cultivé. Et j'avoue que même jeune, j'ai épousé ce point de vue, je m'en suis voulu plus tard. J'avais l'impression de plus appartenir au camp de ma grand-mère maternelle qu'au camp de mes grands-parents paternels, qui sont revenus d'Algérie en 62, donc vraiment après les accords d'Évian, et ruinés par la guerre d'Algérie, tout le peu de biens qu'ils avaient étaient restés là-bas. Donc ma grand-mère, ensuite paternelle, a retrouvé un travail au ministère des Finances, notamment dans l'administration de Jean-Pierre Chevènement, dont elle a été la secrétaire. Ma grand-mère était un peu le roi soleil de tout ça. D'ailleurs, on était à Versailles, dans un lieu.
Vous dites, je vous cite, au sujet de la bibliothèque de votre grand-mère et non pas de sa librairie, du sol au plafond, la bibliothèque est finement ouvragée de caissons de diverses tailles, adaptés au format qui s'y emboîte. Là se développe, s'enrichit, se précise mon goût maniaque de la lecture et du style, s'entretient mon culte de Proust, de Chateaubriand et de Claudel. Cet extrait de voix off, votre essai, oui, paru en 2008 au Mercure de France, qui a obtenu le prix Femina. Vous étiez lié à cette grand-mère aussi par ce goût pour la littérature.
Ah oui, oui, oui.
Ce
oui,
culte
oui.
de la littérature.
Oui, c'était presque une pratique religieuse. D'ailleurs, c'était encore aussi par notre grand-mère qu'on fréquentait l'église, le catéchisme. Mes parents étaient beaucoup plus relâchés de ce point de vue-là. Mais ma grand-mère entretenait deux cultes, donc le culte catholique, auquel on se pliait dans un immense ennui. Je ne suis jamais autant ennuyé qu'à la messe le dimanche. Quand on allait dormir chez elle, c'est la prière le soir au pied du lit. On faisait ça, mais tout ça faisait partie de cet ordre protecteur. Donc j'avais le sentiment que pour que cet ordre fonctionne, il fallait sacrifier des heures comme ça, certes très ennuyeuses, mais qui permettaient aux choses de fonctionner. Et l'autre culte, c'était les livres, sa bibliothèque, sa librairie, plus tard ma librairie, vous voyez où on est.
Lieu tapissé de livres.
Ouais. Ce culte s'est entretenu, et notamment autour d'une œuvre qui était le soulier de satin.
De Claudel. À quel âge ?
Qui a été je pense 13-14 ans, la première fois où ma grand-mère en a parlé. J'ai commencé à lire cette pièce sans rien comprendre. Et puis, je l'ai reprise comme ça dans ces années-là. Et il se trouve que ça se jouait à Paris, au théâtre d'Orsay, chez Jean-Louis Barrault, qui avait été le créateur et l'acteur du soulier de satin. Donc c'était un homme théâtre, un homme qui m'a, par lequel j'ai la passion du théâtre s'est vraiment construite et s'est donné un corps.
Vous alliez le voir au théâtre d'Orsay. Je crois que vous traîniez un peu à la sortie pour essayer de le.
J'aimais beaucoup ça.
L'apercevoir.
Adolescent à Versailles, en fait, j'allais très très peu à Paris. D'ailleurs, c'était un.
Vous alliez peu au théâtre.
J'allais au théâtre Montansier à Versailles. Mmh. Ça a été très important. J'avais vu une vedette qui était Bernard Blier dans des vrais décors, comme j'avais vu à la télévision. Et vu en vrai, donc, Bernard Blier, c'était une pièce de boulevard qui s'appelait « À vos souhaits ». Mais j'ai vécu cette soirée de théâtre comme un enchantement, un émerveillement. Et ce théâtre était est toujours, d'ailleurs, à 50 mètres de chez ma mère. Il était dirigé à ce moment-là par Marcel Tassancourt, une femme d'autorité, très, très cultivée, même, et qui était là depuis une éternité. Donc, j'avais le sentiment que c'était un peu le pendant de ma grand-mère au théâtre Montansier, qui donnait aussi sur le parc de Versailles. Et tout ça était très très structuré, en fait. Il faudrait un autre pôle qui est la pharmacie de mon père. La librairie de ma grand-mère, la pharmacie de mon père, le théâtre Montansier, le parc de Versailles, le jardin d'enfance et l'école. Puis le lycée Hoche qui était à côté de la librairie et qui était un très bel endroit aussi. Tout ça, d'ailleurs, c'est une architecture, donc l'architecture classique, 17e, et qui ajoute au côté immémorial, protecteur, l'impression que le temps ne passait pas.
Vous avez l'impression que ça a structuré votre goût d'un certain esthétisme ou votre...
Sûrement, sûrement. Un goût de paysage immense et très rectiligne. Le boulevard de la Reine qui va tout droit, le boulevard du Roi qui va tout droit aussi, la rue des Réservoirs tout droit vers le château, et le boulevard de Lorraine qui descend vers le Trianon aussi. Ce sont des grandes allées. Et ces grandes allées, je les ai parcourues toute l'enfance et toute l'adolescence, en lisant notamment, en rêvant beaucoup. Et donc, ça crée une sorte d'univers extrêmement rassurant, qui n'a qu'une histoire, c'est la grande histoire, qui se rattache au XVIIe siècle, et dans lequel je déploie des rêveries insensées et des grandes déclamations. Versailles me semblait une ville, quand je revois, une ville
c'est-à-dire
complètement déserte.
Vous déclamiez dans les jardins.
À partir du moment où je suis allé au lycée, même à Versailles, puis ensuite au lycée à Paris, en revenant par le train ou revenant à travers les rues de Versailles, ou alors dans le parc de Versailles, oui, c'était des lieux où j'aimais bien parler à voix haute. C'est pas forcément déclamer des textes d'ailleurs. C'était du babil, en fait. D'ailleurs, la plupart du temps, plus que des textes mémorisés, c'était faire usage de ma voix et porter la voix et parler. Ma mère parlait toute seule d'ailleurs, et ma grand-mère aussi.
Oui, c'est ce que
ma
vous
tante
racontez.
Aussi d'ailleurs. Ma tante, je me rappelle, elle était quand j'étais dans le jardin, je l'entendais. Elle est devenue avocate et elle travaillait des plaidoiries, je pense, des exercices oratoires.
Vous découvrez Proust au lycée Hoche en lisant un extrait d'Albertine disparue dans un volume de La Gare des Michards, ouais, avec un camarade qui s'appelle Christophe. Et cette lecture change votre perception littéraire. Proust est décisif, dites-vous. Qu'est-ce que Proust change dans cette existence de jeune homme ?
C'est souvent une personne comme ça qui m'apporte ou m'ouvre un monde. Et là, effectivement, ce Christophe Ferré, c'est un romancier d'ailleurs, un très très bon romancier, qui a écrit de très très beaux livres, très mélancoliques, et qui était un ami très proche. Et c'est lui qui m'a... je vois son geste, il a poussé le Lagarde du Michard vers moi, ou avec son doigt, il m'a montré ce texte.
Vous êtes en classe ?
On est en classe de seconde. Et bon, j'ai déjà un goût de la littérature très fort. J'ai écrit beaucoup de poèmes, j'ai écrit des romans, l'écriture, le rêve d'être écrivain est déjà très présent. En fait, je me rêvais comme écrivain, acteur, metteur en scène. Une sorte de mélange de Claudel et de Jean-Louis Barrault.
Ce que vous avez fini par faire.
Ouais. Mais disons que c'était ça. Et lui, je trouvais qu'il avait un goût littéraire très fort. Et je me disais, ce qu'il aime, c'est forcément très beau. Et peut-être il m'aide à m'élever. Et il me montre ce texte de Proust. J'avais entendu ma grand-mère nommer Proust, mais pour moi c'était, je sais pas, trop difficile encore. Et je lis ce texte, et qui est un texte d'Albertine Disparue, où il y a cette phrase que le jour est lent à mourir par les soirs démesurés de l'été. Et là, c'est comme une cristallisation, une explosion. Le fait littéraire m'apparaît dans toute sa grandeur. Même si je tournais autour depuis des années, là, c'est le fait d'une cristallisation. C'est évident que cette phrase est sublime et que on peut consacrer sa vie à ça. Soit à l'écriture de choses comme ça, soit à l'étude, parce que aussi dans ma tête, le métier de professeur est très, 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 très enviable, très désirable. Ma mère est professeur et je la sens heureuse dans son métier. Et ma grand-mère aurait souhaité d'ailleurs être professeur aussi, avant de devenir libraire. Donc, on peut enseigner ça aussi, on peut l'écrire et on peut le dire. Le lire à haute voix, le jouer d'une certaine manière. Et à partir de la découverte de ce texte, c'est le partage avec Christophe des lectures de Proust. Et il m'emmène d'ailleurs, quelques temps plus tard, il m'a emmené dans son village natal, qui n'était autre que Illiers-Combray. Et là, on a développé avec Christophe un autre culte, le culte de Proust, en échangeant des textes, des impressions, en lisant, en se dire maintenant, on fait une lecture exhaustive, il faut lire toute la recherche. Et donc, première lecture de la recherche intégrale, avec un sentiment d'élection, de grand plaisir, de jouissance littéraire.
D'élection, pourquoi? Parce que vous avez 15 ans et que vous avez compris?
Parce que je me sens élu en même temps. On se sent comme choisi, on se dit, si je suis capable de lire ça, ça me distingue. Je cherchais en même temps, ça c'est mon côté histrion, à me distinguer. C'était, j'ai pas honte de le dire, mais je cherchais à me faire valoir aussi. J'avais l'impression de, si je ne me poussais pas un peu du coude ou du col, de ne pas valoir grand, enfin de pas être remarquable. Vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon frère aîné, vis-à-vis de mes camarades, parce que tout ça aussi, le poids de rêverie est tel que la plupart du temps, je parle pas de tout ça. Je n'en parle pas, ou ce sont des imaginations.
C'est votre univers intérieur, en fait.
C'est un univers intérieur un peu presque tellement plein de visions grandioses, comme ça, de désirs immenses d'être ceci ou cela, que ça pèse, ça finit par peser. Donc il faut que quelque chose de ça s'exprime. Parce que la timidité fait que, par ailleurs, à certains moments de mon existence, notamment adolescente, j'ai l'impression de n'être rien, de pas exister du tout, ou d'être très, 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 très fade, très banal. J'étais obsédé par ça. Les filles, sauf de temps en temps quand je faisais un peu le clown et j'avais quelques amis devant lesquels j'aimais me produire, et par contre d'autres que j'aimais tout autant sinon plus et devant lesquels je n'osais pas me produire. Alors là, le théâtre, le fait d'avoir un atelier théâtre au lycée, d'avoir le théâtre Montansier où se jouait le concours interscolaire, c'était en fin d'année. Alors là, ça m'a beaucoup aidé à dégorger un peu cet univers mental dans lequel je passais un temps abstrait, beaucoup trop infini, quoi, beaucoup trop lourd à porter, je trouve.
Vous passiez beaucoup de temps avec votre frère Bruno,
oui,
également. On connaît l'histoire de votre duo inséparable, insulaire, partageant la même chambre. Vous faites des spectacles ensemble, ça c'est quand vous êtes plus petit? Des spectacles pour la famille,
oui.
Vos parents payent un franc pour pouvoir assister.
Ça c'est parce qu'on a grandi ensemble longtemps dans la même chambre.
Vous étiez les deux aînés.
Comme on est des jumeaux, j'ai le sentiment là. On est les deux aînés, lui né en 61, moi en 63, puis après j'ai deux petits frères de 69, 72. Donc dans l'enfance, on est vraiment mis ensemble. On a même des photos où on est quasiment habillés pareil. Et on a développé très tôt des jeux ensemble et qui se sont... Ça, c'est par mon père. Je pense que mon père avait un tel goût du spectacle, un tel goût des films,
il faisait
du
des petits
cinéma,
films.
Du théâtre. Il nous filmait en Super 8. Il faisait lui-même le clown. Il se déguisait. Qui nous a mis en spectacle et nous a donné l'envie du spectacle. Et donc, à très tôt, en réunissant deux lits, comme ça, nos deux lits, on faisait une scène avec ces deux lits. Quelquefois, on sortait même d'entre les deux lits, comme ça, on faisait des apparitions devant nos parents, et puis aussi parfois devant mon oncle, ma tante, ma grand-mère aussi. Et petit à petit, ces spectacles sont devenus de plus en plus riches, formels. On s'inspirait de La Piste aux Étoiles, une émission de cirque. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers essais. Moi en lion, Bruno en dompteur, lui en magicien, moi en clown. Et puis après, on apprenait des blagues prises dans les magazines, des blagues de pif-poche.
Vous aviez envie de faire rire quand même.
J'aimais ça, oui.
Et vous, vos talents convergent et vos parents vous encouragent ?
Énormément, mon père surtout. Et mon père, nous, ensuite, on découvre les marionnettes, donc on fait des spectacles de marionnettes, et mon père nous construit des manses guignols très élaborées, avec des décors, des changements de décors, des cintres, beaucoup de marionnettes, et là, on écrit des pièces. Là, il y a une vraie... Ça ne s'arrête pas du tout dans le temps. Et ça s'est jamais arrêté, et ça s'est transformé à chaque fois. On a fait les bandes-sons de films, ce qu'on appelait le minéma. C'était des petites vignettes qu'on glissait dans un projecteur. On faisait défiler les images. On a toujours, d'ailleurs, les deux bandes-sons d'un Robin des Bois. Blanche-Neige d'abord, Robin des Bois. Je fais écouter ça à mes enfants qui aimaient beaucoup ça. Et avec un montage sonore, des choix de musique, des choix de son, des choix de voix, puisqu'on faisait toutes les voix. Et puis ça, oui, effectivement, ça s'est jamais arrêté, ça.
Les trois scénarios que vous avez écrits ensemble avec votre frère et tous ces films que vous faites ensemble sont dans la continuité de vos jeux d'enfant. C'est les mêmes processus qui se mettent en place et les mêmes dynamiques entre vous deux.
Oui, c'est drôle parce que Bruno, dans le dernier tournage qu'on a fait, les deux Alfred, qui doit sortir prochainement, m'a rappelé ça, m'a dit, mais finalement, c'est toujours la même chose. En fait, on fait la...
C'est le prolongement
exactement,
de vos jeux d'enfant.
C'est le prolongement, surtout qu'on joue ensemble dans les films. Ce qu'on faisait moins avant, Bruno se distribuait moins, tandis que là, on faisait vraiment couple d'acteurs dans les deux Alfred et ce qu'on faisait enfant. Donc il y a une
dans Radio Berthe aussi, vous êtes
dans Radio Berthe. On l'a fait même.
Il y a des scènes comiques.
Dès le début, en fait, Bruno joue dans les films, mais petit à petit, sa place dans les films devient très importante. Quand il a fait Comme un avion, où il a vraiment pris le rôle principal, là, il fait une sorte de coming out d'acteur. Non seulement qu'il aimait ça, mais qu'il était très bon pour ça.
Vous dites, à son sujet, « Je n'ai jamais pensé que mon frère pouvait avoir besoin de moi, alors que moi, j'avais besoin de lui, ce grand frère double et un peu rival, notamment aux yeux de votre mère, je crois. »
Oui, il y a toute une...
Pourquoi ? Parce que vous étiez le plus petit ? Parce que, au caractère...
J'ai eu le sentiment d'être beaucoup plus complexé que lui, plus timide, ayant moins de succès avec les autres. Je le revois au scout, par exemple, lui, il était la coqueluche des cheftaines, des autres, il avait plein de copains, il s'amusait tout le temps. Et moi, j'avais le sentiment de perdre mon frère, d'être abandonné par lui, et j'étais très très souvent triste, et je méprisais ma timidité, j'avais beaucoup moins de copains que lui, et donc je le regardais avec les yeux d'un cadet envieux, un peu jaloux. J'essayais de coller à lui. Justement, peut-être dans tous ces jeux d'enfant, je vais
coller, le... Coller, c'est-à-dire être avec lui ou l'imiter ?
Les deux. Mais l'imitation m'a accompagné toute l'existence, souvent par imprégnation. J'ai appris énormément par imitation, imprégnation, en collant au modèle.
Quand vous étiez enfant, vous...
Dans des tas de circonstances, d'ailleurs. L'imitation est pour moi une forme de création. Même quand j'écris, d'ailleurs, je sens que j'imite.
C'est toujours le cas.
J'ai le sentiment que je suis prisonnier de ça. J'ai l'impression que ma voix naturelle est une voix imitée. Est une voix qui a pas de... En fait, j'avais... D'ailleurs, c'était jeune acteur, j'ai le sentiment de pas avoir de naturel. Que j'avais pas de nature, quoi. Donc, n'ayant pas de nature, fallait que j'emprunte. Mais c'est le truc de Diderot, ça, quand j'ai trouvé cette phrase-là, il faut bien n'avoir aucun caractère pour être capable de les imiter tous. C'est ce qui est dans le paradoxe.
Et enfin, vous imitez beaucoup. Vous imitez
énormément,
tout le monde.
D'ailleurs, dans ces enregistrements qu'on fait avec mon frère, je n'ai jamais ma voix, pratiquement. Les hommes politiques. D'ailleurs, j'ai eu un été à l'île d'Oléron, un immense succès auprès de ma mère en imitant le propriétaire de la maison qu'on louait, Monsieur Kutchera. Et j'ai jamais oublié le rire aux éclats de ma mère, et qui m'avait vraiment gratifié. Et je me sentais une force. Ouais.
C'est j'imite donc je suis. C'est-à-dire que vous imitez pour trouver votre propre voix. Vous l'avez trouvée quand vous faites ces lectures.
Oui, mais d'ailleurs mon frère me le disait quand il venait me voir au théâtre. Il entendait l'acteur que j'imitais. J'avais adoré le soulier de satin de Jean-Louis Barrault, et donc mon frère Bruno me disait, t'imites l'acteur qui fait Rodrigue, qui était un acteur que j'ai rencontré des années plus tard, Jean-Pierre Bouvier. D'ailleurs, c'est une chose, même jusqu'au conservatoire, je souffrais de ça, j'avais l'impression qu'en parlant à voix portée, je perdais ma voix. Je passais par la voix d'un autre. Mais c'était lié à ce complexe de ne pas tout à fait exister, d'être trop timide, d'avoir du mal à m'imposer, de n'avoir pas l'autorité que je reconnaissais aux autres, mon frère, mon père, ma grand-mère, d'être trop volontiers, façon de me soumettre à des modèles, de me laisser écraser un peu, mais avec ma propre complicité d'ailleurs.
En réalité, c'était aussi votre outil de travail.
Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je me plains pas de ça. Je me dis, en fait, non, ça m'a permis un enrichissement très, très grand. Parce que je ne me suis jamais satisfait de ce que je faisais, moi.
Vous avez cette passion pour Jean-Louis Barrault. Quand votre génération est fan de Cure et Patrick Devers, je pense que ça correspond à peu près ces années-là. Vous aimez Proust et Jean-Louis Barrault. Vous faites partie du club théâtre, mais pour autant, ce désir de théâtre, je crois, à cette époque, n'est pas clairement énoncé. Il sort pas de chez vous, en fait.
Non, parce que tout ça, toujours le poids du fantasme est plus important que le sens du réel, en fait. Et donc, je me destine à être professeur.
Et vous aimez beaucoup l'école.
J'adore l'école. C'est à l'école que je me suis le mieux exprimé. C'est à l'école que j'ai pu, avec l'école et à l'école que j'ai pu faire du théâtre. À l'école aussi que peut-être me démarque aussi de ce frère, de Bruno, et que je trouve ma propre voie.
Est-ce que vous êtes meilleur élève?
Parce que je suis bon élève aussi. En classe, j'ai des satisfactions personnelles très grandes, une reconnaissance qui me vient de là, d'être regardé par mes camarades de classe comme un très bon élève. Vous savez, il y avait des tableaux d'honneur et félicitations, et je recevais les félicitations. C'était une marque, pour moi, très très importante de reconnaissance. Le rite scolaire, j'y sacrifiais pleinement, quitte à encourir d'ailleurs des moqueries. Mon frère aimait bien se moquer
un peu de
mon côté dévot, comme ça. Dévotion à l'école. C'est dû au fait d'avoir eu d'excellents professeurs. Je pense notamment en français et en lettres. J'ai toujours adoré les profs. J'en ai eu beaucoup, d'ailleurs, en langue aussi, que j'aime énormément. Je tombais amoureux, très volontiers de ma professeure d'anglais en sixième, en quatrième. J'ai des transferts multiples. J'avais des grandes admirations pour un prof de lettres qui s'appelait Pechnard en première, un prof de philo en Hippocagne qui s'appelait Guest, Métaux en Henri IV. Donc, pour moi, l'école devait être sans fin.
C'est ce que nous verrons demain. Ce sera le prochain épisode de notre entretien. Cette école à laquelle vous êtes très attaché, que vous n'avez pas du tout envie de quitter. Merci, Denis Podalydès.
Merci.
Nous nous retrouvons donc demain soir pour un nouvel épisode de votre À Voix Nue. Bonsoir à tous, vous êtes sur France Culture.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Béline Dolla avec Denis Podalydès. À Voix Nue, réalisation Christine Robert. Prise de son, Yann Fressy, attaché de production, Daphné Abgral, coordination, Sandrine Trainer. À Voix Nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.